RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
Et il est là ce matin avec son micro à la main, c'est François. Salut François.
Vas-y, comment ça va ?
Bien, ça va.
Oh, j'ai parlé fort d'un coup là. Ouh là là.
Ouh là.
On est le lundi 26 avril, c'est le jour du muguet. Donc si vous voulez faire plaisir, achetez du muguet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc comme à chaque émission, à chaque fois, on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé un 26 avril. Un 26 avril 1933, il y a eu la création de la Gestapo. En 64, il y a eu la création officielle de l'État de Tanzanie. Un petit bisou à Matéa, qui n'a pas pu profiter de cette destination à cause du Covid, de la Covid. En 89, il y a eu le début du développement de Pokémon, ce qui emplâtre quasiment tous les parents. Hein, voilà, moi.
Attrapez-les tous.
Voilà, exactement. Moi qui. Le premier épisode de Dragon Ball Z aussi. Il y a eu la première émission, le lancement de Loft Story en 2001. C'était un 26 avril, qui a un peu lancé l'ère de la télé-réalité. Les naissances, c'est l'anniversaire de l'empereur Marc Aurèle en 121. En 1924, Guy Moquet. En 1963, la naissance de Jet Li, le frère de Jet Ski et de Jet 27. Et en 70, l'anniversaire de Melania Trump.
Fallait
la tenter. Aujourd'hui, je reçois Ange Meille qui viendra nous parler un petit peu de son activité. On aura plus en profondeur là-dessus. C'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, je remercie tous les gens qui s'inspirent de mon émission pour rebondir dessus. C'est la Saint-Aldo. Voilà. Donc, crise économique oblige en Espagne la semaine dernière. Un homme a mangé sa maman.
Bon appétit.
Voilà. Et en Nouvelle-Zélande, une loi a été déclarée pour que les gens nés après 2004 n'aient plus le droit d'acheter de cigarettes pour créer la première génération sans tabac.
Ça, c'est très bien.
Voilà. Donc, oui, c'est très bien. Ouais.
No comment.
Tu t'entends ? Alors, hop. Est-ce que là, tu t'entends ? Est-ce que là, tu entends ?
Parfait.
On va dire aussi que cette semaine, il y a eu une très belle initiative de la part du monde culturel à Bastia. Un très beau flash mob. J'ai envie de dire, la franchisade est en marche. Ajaccio ne détiendra plus maintenant le statut de ville...
De la chocolatine.
Alors, courrier des auditeurs aujourd'hui, j'ai une lettre anonyme. On m'a envoyé rapport à la date anniversaire de la création de la Gestapo. Moi qui dénonce régulièrement mes voisins continentaux, les fêtes clandestines, les réunions à plus de 6, les gens qui vont au-delà des 10 km, qui envoient ça non seulement aux maires, aux oppositions et à la gendarmerie et à la police municipale. Je voudrais savoir si, malgré mes multiples relances à ces services de l'État faisant autorité, la radio peut faire quelque chose. Je vous remercie. Bonne journée. Ben, au fait, j'ai envie de dire non. Voilà, on ne participera pas à cet élan gestapiste. Aujourd'hui, je reçois Ange Meille. Ange, comment ça va ?
Très bien, merci. D'abord, merci pour cette invitation.
Mazette, beau comme un camion.
Toujours.
On va faire comme d'habitude dans l'émission. Alors toi... Tu n'as pas grandi à Calvi.
Non. Hein,
c'était plutôt...
La principauté de Lugno.
La principauté de Lugno. Donc, du coup, tes premiers souvenirs calvais, quels sont-ils ?
Alors, mes premiers souvenirs calvais, c'était le collège.
C'était le collège ?
Le collège. Avril, mai, l'époque où on séchait les cours, pour aller aux trois plongeoires.
D'accord.
Les sandwichs américains, du best-of.
Exactement.
Et toute cette grande époque.
Donc,
Pierre Bertogne en tant que professeur de Corse.
Oh là, et Pion, on l'a
et
connu Pion aussi.
Et Pion aussi, c'est vrai. D'abord Pion.
La même génération, d'abord Pion.
D'abord Pion, puis professeur de Corse.
Ouais, avec qui aujourd'hui pourrait plus être Pion. De ce qu'on a vécu, il pourrait plus être Pion.
Il est resté proche des enfants.
Non. Et donc du coup, premier souvenir calvé, c'est le collège. Quel type d'élève tu étais ?
Alors j'étais l'élève qui avait la chance d'avoir des facultés. Et la bêtise de ne pas s'en servir.
Donc, le drame, puisque toi, tu as été après, tu as fait le lycée d'Île-Rousse, mais tu t'es très vite déguerpillé, en fait.
En fait, oui. J'ai fait 6e, 4e Calvi, 3e Bastia, 3e 7 au collège de Giraud. Pour te situer, la 3e 7, c'était un peu tous les repris de justice. J'arrivais en 3e, tout le monde avait déjà un enfant en sixième, de la barbe et un casier judiciaire.
Et un permis.
Et un permis, forcément. Je suis remonté au lycée de Balagne, donc à Île-aux-Rousses, en seconde. J'ai continué jusqu'à la terminale.
Continué jusqu'à la terminale. Bon souvenir, élève, élève moyen, pas de vague.
Non, voilà. Je me souviens encore de ce proviseur.
Monsieur
Andréagne.
Andréagne,
exactement. The sky is the limit.
The sky is the limit. Et du coup, par la suite, obtention du bac, bac L, il me semble, si je me rappelle bien. Qu'est-ce que tu fais ?
Alors, au début, je suis partant pour bosser aux Arcs. Pour bosser aux Arcs, on me propose de travailler dans un restaurant, de tenir un bar. Et là, je monte à Corté. Un ami me dit, je dois m'inscrire, accompagnement, on passe la journée là-haut. Et en fait, je flash. Et je me dis, je vais faire du droit. Alors le droit, comme tous ceux qui s'y inscrivent, j'ai fait très vite. J'ai fait deux fois ma première année.
Beaucoup de travers, en fait.
Beaucoup de travers.
Deux années de droit, mais deux années de travers.
Surtout, bon, mes meilleurs souvenirs. Mes plus grandes amitiés, mes plus belles soirées. Et en fait, je comprends très vite qu'en fait, la fac, c'est pas pour moi. Donc, je rentre en Balagne. Et là, je commence à bosser dans la sécurité. Je suis d'abord agent de sécurité pour une société. Et 4-5 ans plus tard, la société ferme. Et là, avec un de mes collègues de l'époque, on décide de monter notre propre boîte. Qui s'appellera Balagne Surveillance, qu'on a vendu il y a de ça à peu près 2 ans. On a travaillé une petite dizaine d'années. On avait réussi l'exploit d'être les premiers sur le marché en Balagne, sur tout ce qui était événementiel, donc Calvin The Rock, bal de village, soirée. Belle expérience, ma première expérience professionnelle, et de très beaux souvenirs.
Alors justement, après il y a l'arrivée à l'aéroport, Sainte-Catherine.
Exactement.
L'aéroport Calvi-Balagne.
International.
International.
International de Calvi-Balagne.
Ne me lance pas sur le sujet, s'il te plaît. Donc là aussi, il y a ta propre boîte. Avant, comment ça vient et du coup, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience ? Tu es toujours. Hein,
oui, je suis toujours agent de sûreté à Calvi.
Agent de sûreté à Calvi. Comment ça vient et qu'est-ce que tu en retires ?
Ben, en fait. Le sort a voulu qu'on me rappelle, j'ai postulé à l'aéroport 4 ans avant d'ouvrir la société. Et au moment où je commence à vraiment démarrer mon activité, je reçois le coup de fil
d'un ami
de la voix. Et il me dit, voilà, donc le poste pour lequel vous avez postulé est pour vous. Vous attaquez la semaine prochaine.
Super.
Donc là, bon, en tant qu'hyperactif, j'assume les deux activités. Et j'y suis encore aujourd'hui. Ça va faire 12 ans.
Oui, c'était un meuble là, quasiment.
Ah, complètement. C'est-à-dire que si vous partez sur Marseille, Paris, le dernier sourire, c'est le mien. Bon, là, avec le masque, c'est un peu plus dur.
Justement, cette pandémie, donc, il y a eu le partiel. Mm. Ça, comment on le vit ? Parce qu'après, on va parler de ta deuxième activité. Comment on le vit, plus ou moins ? Parce que là, du coup, on travaille plus normalement.
Ben, ça a complètement changé la façon de travailler. Déjà, le rapport avec les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a un aéroport international, bon, on applique nos règles de sécurité, mais on a ce côté très familial, très proche des gens, on n'est pas à la chaîne.
C'est-à-dire que oui, 9 mois de l'année, les gens, on les connaît quasiment.
Exactement. Même après, sur l'été, on prend le temps. On n'a pas le rendement d'Orly. Donc non, ça va.
Ni de Figari.
Ni de Figari, effectivement. Dommage. Peut-être plus tard. On y travaille. Donc non, c'est vrai qu'on voit vraiment la différence.
Alors, du coup, deuxième question. Tu avais une boîte, agent de sûreté. Et là, tu te retrouves conseiller fiscal. Alors moi, il y a deux choses qui... Comment ça vient ? Parce qu'à mon avis, ce n'est pas venu comme une envie d'aller aux champignons. Et quelle formation ? Comment tout le process se passe ?
Alors, c'est très simple. Il y a à peu près 4 ou 5 ans, quand même un mariage sur deux qui se finissent bien, le mien se termine par un divorce. Et je décide de partir en vacances au Maroc. Je me dis, voilà, je prends 10 jours et je pars au Maroc. Je suis dans cet hôtel, je suis très bien. Tous les matins, je prends un petit déjeuner. Et au petit déjeuner, il y a un groupe de continentaux qui, tous les matins, sont super sympas. Et nous, c'est vrai que le matin, tant qu'on n'a pas bu le café, on est des ours. On est vraiment à l'aise. Donc tous les matins, quand on parle, je grogne un peu. Et un jour, ils sont tous autour de la piscine. Et je me dis, bon, allez, arrête de faire ton sauvage. Va payer un coup à boire et discuter un peu avec ces gens. Donc je tombe sur ces gens super gentils, très, d'une simplicité incroyable. Et on commence un peu à parler de nos activités. Et ils me disent, voilà, ben, nous, on est dans la défiscalisation, dans le placement.
Et c'était quoi ? Ils étaient là pour un séminaire ou...
Non, non, en vacances, d'accord, tout simplement. Et j'ai un peu le réflexe que tout le monde a. Quand on parle de défiscalisation et de placement, je dis, putain, vous risquez rien avec moi, j'ai pas un rond. Et ils me disent, ben justement, le but, c'est de t'en faire gagner.
Ah.
Et là, de suite, ben, la phrase m'accroche. Parce que bon, on n'est pas ennemi de ses intérêts. Et je dis, ben, par contre, il faut que tu m'expliques. Et ils me disent, ben, c'est très simple, tu payes des impôts. Et je dis, ben oui, effectivement, je suis salarié, célibataire, j'ai la cote. Des impôts, même beaucoup. Et ben, c'est très simple, ben, ces impôts, tu peux le transformer en patrimoine. Je dis, comment ça ? Je dis, mais c'est quoi le loup ? Ils disent, non, c'est très simple, ben, tes impôts, on va s'en servir pour acheter des appartements. Donc je commence un peu à m'y intéresser. Je rentre sur Calvi. Et là, ça me trotte. Donc il m'explique un peu les dispositifs, comment ils travaillent. Et ça me trotte de plus en plus. Et je me dis, bon, je vais aller voir mon banquier. Lui va sûrement pouvoir m'aider. Donc je prends rendez-vous avec mon charmant conseiller. Vous savez, celui qui vous vend toujours un livret A.
Oui, oui, oui.
Le livret A qui est un super produit.
Qui vous appelle le 26 du mois pour vous demander comment ça va et tout de suite après si on va pouvoir faire quelque chose pour le compte.
Exactement, celui-ci.
Et qui vous vend des PEL dès que vous êtes en positif plus de 2 mois.
Le PEL qui a une utilité énorme aujourd'hui. Donc ce charmant conseiller qui me reçoit, je lui dis voilà, écoutez, on m'a parlé de dispositifs fiscaux pour mes impôts, je voudrais être conseiller. Et il me dit, écoutez, monsieur May, vous êtes bien gentil. On adore vos agios. Par contre, on ne va pas déplacer un conseiller de gestion de patrimoine pour vous, parce que votre patrimoine, justement, mais vous n'en avez pas. Et je lui dis, ben, le but, justement, c'est de m'en créer. Il me dit, ben, revenez. Une fois que c'est fait, vous revenez nous voir.
D'accord.
Donc, je pars vexé. Je vais voir ma comptable. Et je lui dis, bon, ben, écoute, voilà, on m'a parlé de ça. Je voudrais savoir ce qu'on peut faire. Il me dit, écoute, je t'ai gentil aussi. Moi, je suis ta comptable. Tu me payes pour compter. Je ne suis pas là pour conseiller non plus. Et là, je m'aperçois qu'en fait, si on n'a pas un très gros patrimoine, on n'est pas conseillé. Et je m'aperçois qu'il y a de très, très grosses lacunes encore, c'est qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas.
Alors là, justement, de la part de ces professionnels, cette attitude-là, c'est quoi ? C'est soit de la méconnaissance, du désintérêt parce que c'est une surcharge de travail. C'est quoi leur attitude ? Parce qu'au bout du compte, tu es quand même client.
Ben, c'est simple. Comme j'explique souvent à des clients qui me comparent à leur banquier, deux choses. Le banquier, aujourd'hui, il vous vend des assurances, il vous vend des téléphones mobiles, des caméras de surveillance. Ils sont à deux doigts de faire le contrôle technique des voitures. Quand est-ce qu'ils ont le temps de s'occuper de vous ? Et la deuxième, c'est toujours la même question, c'est quand la dernière fois que ton banquier t'a fait gagner de l'argent ?
Ouais.
Voilà la différence entre eux et moi. Donc là, je rappelle ces braves gens, et notamment Alexandra, qui deviendra ma marraine, et que je remercie d'ailleurs pour ça, parce que c'est grâce à elle, si j'en suis là aujourd'hui. Et je lui dis, écoute, est-ce que vous avez des conseillers en Corse ? Elle me dit, écoute, non, pour la simple et bonne raison que les Corses, vous ne faites pas confiance aux Français. Et je lui dis, bah, tu as complètement raison. Je dis, est-ce que vous êtes prêt à monter une équipe en Corse ? Si moi, je me lance, est-ce que vous me suivez ? Elle me dit, bah, écoute, je vois ça en réunion avec tous les managers, et je te rappelle dans la journée. Je dis, bon, ben, ça va. Et dans la journée, bingo, il me dit, écoute, si tu es prêt à passer vraiment tous les examens, à te former professionnellement, à acquérir toutes les compétences qu'il faut. Nous, on est prêts à te suivre.
Alors là, du coup, la formation, elle dure combien ?
Alors,
comment ça se passe ? Parce que du coup, toi, tu bosses aussi.
Exactement. Je commence par des cours en ligne et je passe mon premier examen qu'on appelle l'IOBSP de niveau 3, donc intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement de niveau 3, 150 heures en ligne et un examen en présentiel à Toulouse. Et j'obtiens mon premier examen.
Oui, alors c'est un examen reconnu.
C'est un diplôme d'État.
Voilà, parce que c'est pas. Parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de coachs.
Non, c'est pas.
Ouais. Ou pour 100 euros, on a un diplôme à 100% pas... de réussite par Internet.
Non, c'est pas Franchet Di Balagne, coach sportif ou coach Enfin, coach personnel, non, c'est pas ça du tout. C'est un vrai diplôme d'État, il y a une vraie reconnaissance derrière. Et je commence par celui-ci, qui me permet justement de proposer l'immobilier et des crédits immobiliers justement à mes clients, et aux personnes que je conseille. Je poursuis en plaçant mon agent lié, qui me permet de proposer des placements. Là-dessus, j'enchaîne sur un MIA, mandat inter en intervention d'assurance, de niveau 2, qui me permet de proposer aussi de l'assurance vie. Et là, aujourd'hui, je suis en train de passer ce qu'on appelle mon CIF.
Sillon interfessier ?
Non, non plus. Allez la placer, celle-là aussi, après les jets. Qui est conseiller en investissement financier, qui est un des statuts les plus reconnus et qui va faire de moi un des plus qualifiés de Corse.
D'accord. Donc, là, quelle est la cible de clientèle ? Puisque du coup, tu dis que ceux qui ont beaucoup d'argent sont déjà des gens qui travaillent pour eux. C'est vraiment le Corse lambda.
Alors, en fait, moi, quand j'ai créé cette activité ici, quand j'ai créé mon équipe, le but, c'était vraiment de démocratiser tout ça. En Corse, on épargne. Le livret A, comme moi, l'avait ouvert à la poste, tout ça. Mais on épargne très mal. Pourquoi ? Parce qu'on est mal conseillé. Parce qu'on a toujours accès au même produit, le produit bancaire. Il faut qu'on comprenne qu'on ne fait pas que de la banque. Les assurances vie, il y a de très, très belles maisons de gestion qui ont d'excellents produits, qui ne coûtent pas plus cher qu'une assurance vie en banque. Ben, les impôts, comme j'en parlais tout à l'heure, pareil. Savoir que demain, si on paye de l'impôt, on peut se créer du patrimoine, on peut acheter des appartements avec. On peut vraiment se servir de dispositifs que l'État met en place.
Alors du coup, parce que moi, je vais parler en peureux que je suis, parle de placement. Alors moi, quand tu parles de placement... on a tous les spécialistes qu'on connaît autour de nous, les spécialistes du Bitcoin,
la crypto-monnaie,
la crypto-monnaie, tout ça et tout. Quelles sont les assurances ? Parce que, en fait, souvent, quand moi je pars là, qui ai fait un petit peu d'économie quand même, je suis bien placé, j'ai toujours peur des pyramides de Ponzi.
Complètement.
Voilà.
Alors, je comprends.
Donc, est-ce qu'il y a justement sur ces placements, est-ce qu'il y a des garanties, des assurances ?
Alors.
Voilà, parce que je pense que les gens, ça doit être la réflexion que les gens te disent souvent. Ouais, je vais te donner mon argent. Je vais le sortir, je vais sortir mon bas de laine. Maintenant, si tout se barre en couille, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, les seuls fonds qui sont garantis aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les fonds euros chez les assurances vie. Dette d'État, fonds garantis, on va taper sur du 1-2%. À côté de ça, c'est toujours pareil. Si on va chez les meilleurs, on est sûr d'avoir le meilleur rendement et les meilleures assurances. Mais on ne peut pas garantir un capital.
D'accord.
Quand on part sur de l'unité de compte ou du placement, on ne peut pas garantir de capital. Par contre, on peut mettre en place certaines sécurités. Aujourd'hui, je propose aussi à mes clients ce qu'on appelle les SCPI. Les SCPI, pour vous grossir un peu la chose, c'est de l'immobilier en part. C'est ce qu'on appelle de la pierre papier. C'est-à-dire que demain, je n'ai pas le budget pour acheter la totalité d'un appartement. Je peux racheter des parts de cet appartement et profiter de la renta au prorata du nombre de parts que je détiens.
Un petit peu comme les gens qui achètent... à plusieurs, ça se faisait beaucoup dans les années 80 ou 70, à plusieurs des trucs dans les stations de ski.
Exactement.
Et qui avaient des semaines, soit pour en profiter eux, soit pour louer.
Pour les louer. Voilà. Alors là, nous, on est plus sur des murs commerciaux, des hôtels de luxe, des entrepôts, des hangars. Et là-dessus, ce genre de maison met deux garanties en place. La première, aucun locataire ne peut détenir plus de 5% des murs. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner un exemple. Demain, on loue des murs à Nike, Microsoft ou n'importe quelle maison. Si elles détiennent 40% des murs, si demain elles chutent ou elles ferment, on perd 40% de renta. 5%, le risque est mutualisé par les autres. La deuxième sécurité, c'est que ça reste de la pierre. Ça reste une valeur refuge. Et là-dessus, on a des rentas très intéressantes.
Donc, j'ai un petit peu travaillé parce que...
Je me doute.
Des fois, j'ai l'air un petit peu... comme ça, de vouloir toujours rigoler et tout ça. Là, concrètement, les déclarations d'impôts doivent être rendues entre le 8 mai et le 26 juin. Non, ou le 26 mai et le 8 juin.
Alors, justement.
Ouais. Je viens vers toi.
Alors, avant ça, je voudrais juste dire un petit truc. Avec ma marraine, nous allons organiser une présentation le 6 mai à partir de 19h30.
Où ça ?
Sur Internet.
D'accord.
Il y aura un lien Zoom sur ma page Facebook, que les gens n'hésitent pas à aller la voir. Justement, ce sera un petit béaba de l'avis d'imposition pour expliquer aux gens comment on doit déclarer, ce qu'on doit déclarer et faire un petit point aussi sur le foncier, parce que souvent les gens ont des locations et ne savent pas comment les déclarer et surtout ne connaissent pas tous les volets des déclarations. Il y a des tas de choses à faire. Sauf qu'on est tellement habitué à, au comptable de famille ou au conseil qui nous dit non, mais laisse comme ça, à chaque fois.
Oui, parce que des fois on gagne de l'argent et en fait on ne se aperçoit pas que même en gagnant, on en perd.
Exactement. Donc on va faire un petit cours là-dessus pour éduquer les gens sur l'imposition. Comment est calculé votre impôt? Qu'est-ce qui génère de l'impôt? Comment les tranches sont calculées? Et surtout, comment votre foncier est calculé? Parce que souvent, ce qu'on ne vous dit pas quand on vend un appartement, c'est alors voilà, l'appartement, il vaut, j'ai un exemple, 180 000 euros par mois. 180 000 euros, vous l'achetez à crédit, ça vous fait à peu près 600 euros de crédit. Et
sur,
vous
25
avez,
ans, ouais.
sur 25 ans, et vous avez 700 euros de loyer, ce qui fait que c'est 100 euros pour vous dans votre poche. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le locatif, vous êtes imposé déjà sur votre marge d'imposition, donc votre tranche, plus les prélèvements sociaux à 17,2. Ce qui fait qu'en façade, votre appartement, sûrement, qui vous rapporte 100 euros, mais quand on fait bien les calculs, on s'aperçoit qu'on est bien loin de ça.
Alors, il y a peut-être aussi un petit problème auquel tu dois être confronté, c'est qu'ici, on peut parler pour Calvi, hein, il y a eu un centre des impôts qu'en 95, beaucoup de paiements en cash. Il y a culturellement peut-être des attitudes qui peuvent être contradictoires avec ce que tu leur proposes. C'est-à-dire qu'à un moment, des gens ont peut-être des biens ou des choses et ne veulent pas trop sortir des clous pour déclarer.
Ça, après, c'est à eux à gérer leurs affaires.
Voilà.
Mais il faut savoir que...
Parce que culturellement, c'est quand même un problème en Corse. Hein, en Corse, on a la culture du cash, on a la culture de l'espèce.
Mais je t'avoue ne pas avoir été trop confronté à ça. Les gens, justement, sont de plus en plus disciplinés sur l'imposition. Mais pourquoi? Parce qu'on a perdu contrôle, tout simplement. Et parce qu'aujourd'hui, les impositions sont tellement carrées que ça devient de plus en plus dur de tricher.
Alors, question bête. Tu nous parles de la réunion le 6 mai. Suite à l'émission de radio, je viens te voir avec mes fiches d'imposition. Comment ça se passe, un rendez-vous avec toi, en fait?
Alors, le premier rendez-vous, c'est très simple. Premier rendez-vous, on va faire une photographie de ta situation. Je vais me présenter mes partenaires, présenter mon travail, t'expliquer comment je travaille, ma façon de bosser. Et ensuite, on va parler de toi. Ta situation familiale, ta situation patrimoniale, tes économies, tes impôts et surtout tes objectifs. Parce que c'est très important. Pourquoi chaque rendez-vous est unique? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs.
Oui, pas tous les mêmes aspirations non plus.
Exactement. Et ce qui va vraiment me guider sur la solution que je vais apporter, ce sont les objectifs. Quelqu'un qui a beaucoup d'impôts à payer, on va peut-être partir sur un dispositif immobilier. Quelqu'un qui a de l'épargne mais qui malheureusement ne lui rapporte rien et qui voudrait un complément de revenus tous les mois, on va peut-être partir sur un autre placement. Quelqu'un qui veut assurer sa succession, on va peut-être partir sur une assurance vie. Quelqu'un qui veut préparer sa retraite, pareil, on va partir sur un plan d'épargne retraite. Il y a des tas de solutions pour tout. Le problème, c'est qu'on ne les connaît pas et on ne s'en sert pas assez. Les entreprises, pareil. On peut mettre en place des...
Oui, donc tu fais les privés...
Et les entreprises.
Et les professionnels.
Donc, même si j'avoue que...
Le ratio, il est de combien?
On 80-20 est sur 80-20, oui. Avant, même souvent les chefs d'entreprise, avant de vouloir te laisser gérer les économies d'entreprise, ils ont d'abord besoin de savoir ce que tu vaux. C'est un test. On le sait, chez nous, on est comme ça. Ils vont venir d'abord te tester sur leur partie, je dirais, personnelle. Et après, c'est là qu'on doit faire ses preuves.
D'accord. Le coût du service?
Alors, le coût, je ne le facture pas. Je pourrais très bien facturer mon conseil. Je ne le facture pas. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un pour qui je ne pourrais rien, je me sentirais mal à l'aise de lui prendre en plus de l'argent, de lui facturer en plus un conseil. Alors, ce que je fais en contrepartie, c'est très simple. Je leur demande deux numéros de téléphone de personnes susceptibles d'être intéressées par mon conseil et que je puisse appeler de leur part.
Donc, c'est un échange de
bons procédés. Complètement.
Donc, chers auditeurs, c'est quand même assez important. Pour les pinces, c'est un service qui fait en sorte qui n'est pas coûteux.
Et c'est gratuit. C'est, ouais, voilà. Je vous l'offre, donc c'est bête de pas s'en servir.
C'est bête de pas s'en servir. Je mettrai peut-être en lien. Tu as peut-être un compte, une adresse, quelque chose sur lequel on peut.
Mon numéro de téléphone, tout simplement.
Le numéro de téléphone, on le mettra sur la radio et sur le podcast. 4 ans que tu fais le boulot. Quelle est la marge de progression et entre le début et aujourd'hui finalement? Comment ça se passe?
Alors déjà,
parce qu'au début, quand on arrive, je suppose, hein, alors là je me fais l'avocat du diable, hein, quand on arrive agent de sûreté, si ça, et qu'on vient avec son attaché caisse et qu'on commence à proposer, il y a peut-être un problème de légitimité. Tu as peut-être été confronté à ça.
Oui.
Ou tu as marché au bouche à oreille?
J'ai commencé par mon répertoire.
D'accord.
J'ai fait d'abord tous mes amis. Alors, pour ceux qui sont intéressés aujourd'hui par l'activité, voilà, j'ai créé l'équipe en Corse. On est 5 aujourd'hui conseillers à tourner sur toute la Corse. Il faut savoir qu'au départ, c'est très dur. Il faut oser. Il faut prendre le téléphone, le décrocher et oser passer les coups de fil. Moi, j'ai commencé par mes amis. Et j'ai dit, bon, Fradé, il me faut des numéros. Sors-moi ton répertoire, check-moi 5 numéros. Et j'ai débuté comme ça. Et petit à petit, ben, ça a acté. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Quand je bosse, quand on sort la sécurité, il faut que tout soit carré. Donc, j'ai bossé comme ça aussi dans la défisque. Donc, avant de partir en rendez-vous, à l'époque, j'étais toujours accompagné de ma marraine. C'est moi qui prenais la parole. Je voulais vraiment que les gens sachent que c'est moi.
C'était le référent.
Exactement. Le but, c'était que dès qu'on pense impôt en Corse, qu'on se dise, ben putain, impôt, c'est Anjou. Il faut que je l'appelle. Et aujourd'hui, je m'aperçois que de plus en plus de gens ont ce réflexe-là. Et c'est super flatteur. Quand j'ai débuté, c'est vrai qu'au début, c'était pas simple. Parce qu'on n'ose pas. Et parce qu'on a toujours les bien-pensants qui vous disent wow, Coco, tu as fait L, tu sors de la sécurité, qu'est-ce que tu vas faire de la défisque? Et ces gens-là, je les remercie. Parce que c'est eux qui m'ont donné peut-être le coup de pied au cul qui manquait. Pour vraiment aller au bout. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce que j'ai pu accomplir en 4 ans, tous ces gens, ben, à qui j'ai pu apporter mon aide, que j'ai aidé à se créer un patrimoine, quand je vois ben, ces gens qui ont des enfants, puis qui sans moi n'auraient jamais acheté d'appartement, qui sans moi n'en seraient pas là, c'est super flatteur. C'est vraiment ma reconnaissance.
Alors du coup, puisqu'on est sur ces choses-là, tu commences seul sur la région, pour en arriver à 5, les perspectives du coup sont plus ou moins bonnes.
Ah oui, complètement. Mais c'est un métier intéressant. On a exactement le même marché que les croque-morts. On répond à des questions de société. Mais des impôts, il y en aura toujours. Des gens qui n'aiment pas les payer, on est tous pareils. Des gens qui s'inquiètent pour leur retraite, ben, tous. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à calculer votre retraite, bon, mais ça fait peur.
Ouais, bah, c'est beaucoup de... J'ai resté trop longtemps à la fac, moi.
C'est un peu ça. Moi, même malgré mes 2 années de droit, ben, je m'aperçois que je n'ai pas trop cotisé non plus. Et ça fait peur. Si on ne s'en prépare pas seul aujourd'hui, ben, on est sûr d'arriver à 62 ans et de ne pas être
puis
bien.
Surtout avec le risque du changement de régime aussi. Hein,
ben, le changement pas... de régime et surtout le changement au niveau des stats. Il faut savoir que dans les années 80, c'était 4,1 ou 4,7 actifs pour un retraité. Il faut savoir qu'en 2025, on sera à 1,1 actif par retraité.
Merci les boomers.
Voilà. Donc, si on ne se prépare pas à notre retraite, on n'y sera jamais.
Alors, dans l'émission, il y a toujours les questions qui fâchent.
Vas-y, je t'en prie.
On va les aborder. Je mets une petite musique d'ambiance à chaque fois. Tu le sens venir?
Oh, l'homme à l'harmonica.
La tension monte. Deux activités. Est-ce que c'est pas faire des choses mal?
Non.
Est-ce qu'à l'usure, il y a une réflexion, c'est-à-dire de se dire qu'à un moment, il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre.
Oui, de plus en plus.
De plus en plus.
La sûreté, ça a été un choix pragmatique. La gestion de patrimoine, c'était vraiment un choix de cœur. Ça a été pour moi une vraie passion. C'est-à-dire, quand j'en parle avec mes clients, je le vis. La sûreté, ça reste mon travail, bien entendu. C'est un de mes deux travails et je le respecte, je l'aime. Mais c'était pas... Je me voyais pas agent de sûreté quand j'étais petit.
Ah oui.
Je voulais être cow-boy. Au départ. Mais bon, cow-boy sur Calvi, c'était un peu plus dur.
La fraude fiscale.
Mm-hmm.
Donc, est-ce que tu as des clients qui viennent au-devant de toi et qui te disent « Ouais, voilà, moi, je ne suis pas très sécure parce que peut-être que dans l'idée, moi, quand on commence à toucher sur ma fiche d'imposition, à faire des aménagements, à faire des… j'ai peur de la sanction. » Est-ce que tu as des gens qui te disent « Ouais, voilà, moi, tu me demandes de faire des
alors,
aménagements… »
Alors, attention. Hein.
Non, non, mais moi, je me fais l'avocat du diable, encore une fois. Vas-y. C'est des questions qui fâchent. Je dis « Ouais, regarde, t'es bien gentil. Moi, les impôts, ils sont calculés par l'État. » finalement, je m'en sors pas si mal. Là, avec tes conneries, tu vas me mettre dedans. Tu dois sûrement avoir des gens qui te disent ça. Des gens, c'est le sacro-saint fisc, la peur de la sanction. Ils se disent, oulala, t'es quoi ? Ouais, défiscalisé, t'es gentil, mais pas envie d'avoir d'histoire.
Alors, attention.
Comment tu luttes face à ça ?
Quand j'ai débuté, les deux premiers rendez-vous que je fais, les deux personnes me sortent la même phrase et me disent, bon, allez, faites-moi votre souffle, là. C'est quoi le piège ? En fait, non, je me sers de dispositifs mis en place par l'État. En fait, pour parler d'imposition, ce qu'on appelle le dispositif Pinel. Mmh. En France, on manque cruellement de logements. L'État a deux solutions. Soit augmenter encore les impôts, on est champion d'Europe, hein, on va pas se mentir, soit faire des contribuables des investisseurs.
Oui, parce qu'en plus, en France, on est le pays d'Europe avec le moins de propriétaires.
Et exactement.
C'est-à-dire, je crois qu'en Italie, en Allemagne, en Italie, on est aux alentours des 70%. Je crois qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils ont des salaires moins importants, parce qu'ils habitent chez eux. En Italie, je crois qu'on est aux alentours des 70%. En France, on est en dessous de 50%.
Complètement. Donc l'État, qu'est-ce qu'il propose ? Ben, c'est très simple. Vous investissez dans un logement neuf que vous allez louer. Et en contrepartie, vous bénéficiez d'une économie d'impôt de 21% sur 12 ans.
Ah oui, c'est quand même intéressant.
Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est là que j'interviens. Et je m'occupe de tout.
Alors, on est en Corse, et justement, ces dispositifs-là, est-ce qu'on ne peut pas avoir le reproche de certaines personnes proches ?
Je vais te couper de suite. Je ne vends pas la Corse.
Non, ouais.
Alors, je vends le continent. Je vends les dom-toms. Là, dernièrement, j'ai vendu La Réunion, un logement étudiant. Je ne vends pas la Corse parce que déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité de l'affaire, de l'opération pour mon client et surtout le prix de l'investissement. On ne va pas sentir en Corse en immobilier, on est très cher.
Oui.
Trop. Ah, bien entendu, hein. Je ne vais pas généraliser en disant qu'on bétonise tout. Je ne vais pas faire le héros qui ne veut pas vendre. Voilà, exactement. Ce n'est pas ça du tout. Ce serait mentir. Non, non, je propose des biens sur le continent. Pourquoi ? Parce que j'ai accès à un catalogue qui est super intéressant. Quand tu as bien sur le continent, je vais avoir des T3 de 80 mètres carrés dans de superbes résidences, pas loin de facultés, pas loin de zones d'activité commerciale, pas loin d'écoles.
On est sur un ratio de moins combien en pourcentage par rapport à ici ?
Mais ce bien-là, je vais le toucher aux alentours de 100... Ça peut taper entre 170 jusqu'à 200 000, ouais. selon les endroits où on veut aller.
Plus de moins 50%.
Complètement.
Ouais.
Donc sur une opération, après comme j'explique aux gens, cet appartement, on ne va jamais y aller. C'est moi qui vais le gérer. On ne mettra jamais la bandeira au balcon, on ne mettra pas la photo de maman sur le bahut. C'est juste une enveloppe qu'on va garder pendant une dizaine d'années qui va nous permettre de placer nos impôts, de mettre de côté de l'argent et surtout de sécuriser notre famille. Parce que qu'est-ce qu'il arrive ? Ben, ce bien-là, il est financé par un crédit. Quelqu'un qui fait cette opération, le crédit, ben, forcément, assurance décès invalidité. Demain, il lui arrive quoi que ce soit. Ben, ses ayants droit récupèrent un bien payé en totalité des loyers qui tombent.
D'accord.
Donc, plutôt que de payer des impôts à fonds perdus, parce que j'ai jamais vu le Trésor public venir voir une famille de défunts en disant « Voilà votre chèque de tous les impôts que ce brave monsieur
ah
a
non,
payé. »
Ah non, si on oublie...
Voilà. Surtout, n'oubliez pas justement de déclarer au prorata de l'année.
Alors, troisième question qui fâche. Là, elle est personnelle. On va sortir un petit peu du cadre. En 2014, tu as participé à des élections municipales.
Oui.
Alors, ton point de vue m'intéresse puisque j'ai mis 6 ans à passer le pas. Et qu'est-ce que tu retires de cette expérience ? C'était à Loum, hein.
C'était à Loum. C'était à Loum. On fait une très belle élection. On perd un petit delta de 45 voix, ce qui n'est pas grand-chose pour des logis et une mairie qui étaient déjà en place depuis des décennies. Une très belle expérience. Forcément un peu déçu de perdre, hein. On va pas se mentir.
Mais tu t'attendais à faire un résultat comme ça ou pas du tout?
Alors moi je suis quelqu'un de très pragmatique et je m'attendais à faire un bon résultat mais pas aussi bien.
D'accord.
Après je suis pas du genre à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'étais pas déjà en train de m'emballer sur les comptes de voix, sur les promesses, tout ça. Mais j'étais assez confiant. On perd pas de beaucoup mais on perd malheureusement. Mais ça reste une très belle première expérience politique.
Mais alors du coup, parce que à Loum, il n'y a pas eu
d'opposition.
D'opposition en 2020. Qu'est-ce qui fait alors que finalement le gap apparaissait pas si infranchissable? Qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est vraiment le truc de la défaite qui a démobilisé ou finalement il y a eu des interventions des Deus ex machina, des gens qui qui sont partis en cours de route?
Non. Je pense que tous mes colistiers, du moins la majorité, sont passés à autre chose. C'est un peu ma déception.
C'était le moment où
fallait pas. Pour moi, fallait pas parce qu'on s'était engagé auprès des électeurs à être présent. On s'était engagé auprès de tous ceux qui ont cru en nous et j'étais très déçu. Pour moi, ça reste vraiment la plus grosse déception, c'est d'être un peu passé après
le coup d'éclat, quoi. Le coup d'éclat sans suivi.
On fait une superbe élection. Je me souviens à l'époque, on défrayait presque la chronique puisque moi, de cette élection, on m'en parlait jusqu'à Bastia sans savoir qui j'étais. Ça en parlait partout. On était les petits jeunes, donc c'était beau, quoi. C'était vraiment un très beau combat. Après, malheureusement, c'est mort dans l'œuf.
C'est alors mort dans l'œuf parce que du coup d'être passé si près, ça.
En fait, tout le monde s'est un peu désolidarisé. La liste est un peu tombée en désuétude. Moi, par la suite, j'ai dénoncé, comme tu le sais, pas mal de choses, comme les logements, les choses qui n'étaient pour moi pas normales.
Les primes accédants.
Les plans de primes accédants. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais pour moi, qui étaient des choses sur lesquelles, justement, l'opposition
se devait de...
Exactement, avait le devoir de monter au créneau et de dénoncer, et pas de manière... je dirais...
Ostentatoire.
Exactement. Mais de façon intelligente.
C'est-à-dire que, après, pour les oppositions, quelque part, c'est la ligne, elle est ténue entre l'imprécation, la dénonciation, le truc. Il faut aussi proposer. C'est peut-être la mobilisation des choses qui est compliquée à mettre en marche après.
C'est très dur.
Et puis après, il y a l'exercice du pouvoir d'une majorité aussi.
Complètement, puisqu'on se retrouve à 9 contre 3 sur une mairie de 12, ce qui n'est pas simple, attention, hein. Mais je pense qu'au-delà de ça, on aurait dû peut-être plus appuyer dessus. Je pense que les primo-accédants, c'est très bien. Voilà, c'est très bien, mais on aurait dû faire mieux.
On va passer aux questions flash.
Allez.
Questions flash, ce sont des petites questions. Si tu étais une qualité, quelle serait-elle?
La générosité.
Un défaut.
La générosité.
Un animal.
Un animal. Un puma.
Pas d'explication.
Non.
C'est en voie de disparition. Hein.
Je sais, justement.
Est-ce que tu es un héros de fiction ou de vie réelle qui te suit depuis l'enfance ou...
Lucky Luke.
N'importe quoi.
Ouais, merde. Je t'ai dit que je voulais être cowboy.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme?
Son côté des fois minable. Qui peut m'étonner aussi bien par sa splendeur que son côté minable.
Une phobie?
Le vertige.
Ah, bienvenue au club. Et la dernière fois que tu as pleuré? Pleure pas, moi, je suis un bonhomme.
Alors, la dernière fois que j'ai pleuré... Pour ce film qui était passé sur Netflix, je crois que c'était un film hongrois.
Ah ouais. C'était pas le film turc, le fameux film turc?
Le
film turc qui faisait pleurer. J'ai pas vu, hein, donc, mais c'était ce fameux film. Si tu pouvais revenir en arrière, c'est la dernière question, si tu pouvais revenir en arrière et dire quelque chose à l'enfant que tu étais à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Crois en toi. Quand les gens te disent que c'est pas possible, ils parlent de leurs limites et pas des tiennes. Fais-toi confiance. Fonce.
Ouais, tu penses que par moment, tu as souffert de trop te remettre en question ou en doute ou
en fait, j'ai toujours, avant de me connaître assez pour me faire confiance, j'ai toujours eu besoin d'être rassuré par les gens qui m'entouraient. Et le meilleur exemple, c'est il y a peut-être 8 ou 9 ans de ça, je suis un des premiers à découvrir la cigarette électronique. J'ai les premières cigarettes électroniques en Corse. Et à chaque fois qu'on part en soirée, tout le monde nous regarde bizarre en pensant que ce sont des narguilés portables. Et je me dis, putain, ça doit être un super truc. Ça vaut le coup de monter une boutique. Peut-être que ça vaut le coup d'avoir une petite vitrine et d'en vendre.
Donc du coup, business plan, tout ça.
Complètement.
Non, pour de bon. Ah, t'étais lancé carrément dans
Je pars vraiment décidé. Donc je discute avec la personne sur Marseille donc, qui me vendait les miennes. Pour ça, chez qui se fournit. Donc je commence à faire les devis, un business plan, un petit local, un machin. Et là, deux de mes proches me disent...
Ah ouais.
Ah, oh, qu'est-ce que tu vas faire ça? Oh, les gens, ils comptent sur Internet, ils n'ont pas besoin de toi. Hein. Jamais ils vont venir en boutique. Et j'arrête. J'arrête. Et aujourd'hui, on sait l'ampleur que ça a eu. Donc, ouais, fais-toi confiance.
C'est
tu sais quoi? Faites-vous confiance. Croyez en vous.
Dernière petite phrase, je te laisse. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux mettre en avant? Tu veux conclure l'émission en faisant peut-être un petit coucou ou quoi que ce soit? N'hésite pas, c'est ton moment.
Alors, deux choses. Déjà, je vais remercier tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'ont poussé à avancer, tous ceux qui ont supporté la violence de mes passions, tous ceux qui sont encore aujourd'hui derrière moi. Ils sont nombreux, j'ai de la chance. Ma moitié, celle qui m'accompagne, qui me supporte souvent, même si c'est pas facile, mes parents, pour qui c'est pas simple non plus, hein, on va pas se mentir, on n'est pas une génération facile. Ma famille, mes amis.
Et je sais que tu vas... Alors, je vais faire le petit moment.
Allez, vas-y.
Le petit moment un peu pathos. Je sais qu'il y a t'as une bonne étoile au-dessus de toi. Quelqu'un qui est parti dans des circonstances assez tragiques. Et je pense que c'est pas pour rien que tu avances. Voilà, je pense qu'il y a une petite étoile qui est au-dessus de toi.
Mais j'ai eu la chance.
Et qui te protège.
J'ai eu la chance de connaître des gens qui ont vraiment changé ma vie. Qui m'ont tiré vers le haut en disant, Fradé, qu'est-ce que tu vas faire? Pour de bon, ça? Parce qu'au début, tu sais, quand on sort de la fac, on cherche du travail.
On se cherche.
On se cherche beaucoup. On se trouve pas souvent. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont cru en moi et qui m'ont dit, non, te limite pas, fonce. Et les seules barrières que vraiment j'arrivais pas à franchir, c'est celles que je me fixais moi. Et à chaque fois, ils m'ont attrapé par la peau du cul et... Allez, bouge, saute. Et c'est pour moi, c'est vraiment une chance.
Donc, on va conclure là-dessus. Je rappelle quand même que les rendez-vous sont gratos.
N'hésitez pas.
Alors, n'hésitez pas. On va mettre le lien avec le numéro de téléphone.
Volontiers.
Et bah, écoute, en espérant qu'il y ait des retombées. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis, oui, vas-y.
Ben, je tenais à vous remercier de m'avoir reçu,
c'était tout à fait normal.
Tous ceux qui nous ont écoutés aussi.
À proximité, justement, à proximité des déclarations d'impôts, n'hésitez pas à faire appel au service à Anjou.
Ne subissez plus vos impôts.
Et nous, normalement, rendez-vous la semaine prochaine. J'ai mon petit Nagui qui est dans le dur.
Nous verrons la semaine prochaine.
Je ne m'avance pas. Tout ce que je peux annoncer. Alors là, je l'annonce, mais alors vraiment avec la plus grande fierté. Le plus grand plaisir, c'est que je reçois le 10 mai Stéphanie Tchekaldi.
Oh, bien.
Et je ne vous cache pas.
Waouh.
Alors, c'est sans dénigrer le prochain, celui qui va faire entre les deux.
Ça va être dur, parce que voilà. Entre moi et Stéphanie Tchekaldi, le pauvre, je souhaite vraiment de.
Sans dénigrer.
Du courage.
Voilà.
Ça va pas être simple pour lui. Hein.
Vous annonce quand même que le 10, voilà, je fais du teasing. Le 10, la belle Stéphanie est dans l'émission. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous embrasse.